Ravie de vous voir. On reprend le séminaire de l'année 2014-2015 avec Christophe Prochasson, directeur d'études à l'EHSS, recteur de l'Académie des Camps, qui travaille sur l'histoire culturelle et politique de France du 19e, 20e et 21e siècle, sans doute. Son dernier ouvrage en français était livre sur François Furet, Les chemins de la mélancolie. Et j'ai dit en français parce qu'on vient de sortir un livre ensemble qui sort, qui paraît à l'Université de Chicago Press aux États-Unis à la fin du mois, qui est une traduction du petit livre, le dernier petit livre de mon mari. Voilà. Et il a aussi, en 2013, avec Frédéric Monnier et Marion Fontaine, écrit un livre qui s'appelle Une contre-histoire de la Troisième République. Et je pense qu'il va nous amener là. Je voulais juste faire quelques annonces. Le prochain séminaire, c'est le 13 novembre, avec Rina Maria Kizov, sur l'attirail des juristes. Donc pour les...
Ouais. Ça le comble.
Ouais, les avocats. Et ensuite aussi, le 18 novembre, Patrice Gagnifet viendra au 8-9 pour son Bonaparte. C'est un livre magnifique, un livre vraiment. C'est le jeune Bonaparte, c'est part 1, mais c'est 500, 600 pages. Mais bon, une vie très riche. Et voilà, et aussi, je voulais vous dire de mettre tout de suite sur vos agendas le 17 décembre à 18h, on a la remise des prix du fonds de dotation. Donc, c'est notre petite fête annuelle et on serait ravis de vous avoir avec nous. Voilà, Christophe. Peut-on parler d'un modèle républicain ?
Voilà, j'essaie de répondre. Bien, merci Déborah de cette invitation, évidemment qui m'honore beaucoup et qui me ramène vers mes chères études et d'antiques préoccupations. Et donc je voulais vous entretenir en effet d'un sujet, disons-le d'emblée, à haute teneur, polémique n'est pas peut-être le mot, mais à haute teneur de controverse. Puisque, comme vous le savez, chacun s'emploie à avoir recours à ce mot de république, de valeurs républicaines, d'idées républicaines, comme si tout cela était dans les têtes de chacun et s'imposait avec évidence, sachant que, nous le savons aussi aujourd'hui, il est difficile de s'imposer dans la vie politique sans faire allégeance à ces valeurs républicaines, au point que nous aurons peut-être le temps d'en discuter. Même l'extrême droite aujourd'hui s'inscrit dans le paysage de la République, faisant référence à des valeurs républicaines. Alors, il y a ce premier contexte, cet élément de contexte-là. Il y en a un second, qui est que les historiens eux-mêmes, et pas seulement les historiens d'ailleurs, ont banalisé un terme, celui de modèle républicain. Et la notion de modèle, je ne voudrais pas m'engager sur cette voie, mais pose des problèmes en général aux sciences humaines et sociales, et en particulier aux historiens, dans la mesure où il est souvent difficile, et surtout en politique, de reconnaître des modèles, dans la mesure où ces modèles ont tous une histoire, et donc sont livrés à des lectures particulières, des appropriations particulières. Et la République, de ce point de vue-là, n'échappe pas à la règle. Et donc, l'idée même qu'il puisse exister d'un modèle républicain peut poser un certain nombre de problèmes. Déborah y faisait allusion. C'est un peu dans cet esprit qu'à plusieurs, nous avons mis en œuvre une petite enquête autour de cette idée de modèle républicain et proposé que, de façon avec un certain sens de la provocation et peut-être une certaine pompe, nous avons appelé une contre-histoire de la Troisième République. Parce que, et ça orientera toutes les réflexions qui vont suivre, dans ce modèle républicain, ce qui est le plus souvent entendu, c'est un moment précis de l'histoire de la République auquel il est fait référence, ce que l'historien Claude Nicolet appelait son modèle athénien. Je veux parler de la Troisième République. Et encore, dans cette Troisième République, faut-il faire référence non pas à l'ensemble de la séquence historique de la Troisième République, mais à la première Troisième République, si j'ose dire, c'est-à-dire celle qui s'étend de sa fondation dans les années 70 jusqu'à la guerre de 14. Voilà donc quelques mots pour présenter le sujet. Alors, Pour illustrer un peu tout ça, j'ai pris le parti, en bonne académique, d'articuler mon propos en trois points. Et je commencerai donc par un premier point visant à essayer de comprendre, au fond, ce qu'on entend par ces valeurs républicaines, ce qu'on y met. Dans un deuxième temps, je me permettrai de réfléchir à cette question aussi essentielle, c'est qu'une fois qu'on a posé ce que sont ces valeurs républicaines, il faut se poser, savoir la question, est-ce que la nation a été républicanisée, autrement dit, comment la République éventuellement est descendue dans les masses, est-ce que notre pays a été républicanisé? Et puis, pour finir, sur une note peut-être un peu plus précise, concrète, j'ai choisi, parce que j'ai creusé particulièrement cette question, de mettre la focale sur la figure du président de la République, sur la fonction, dans la mesure où il me semble que lorsqu'on examine de près la figure du président de la République, on touche du doigt toutes les ambivalences qu'il y a derrière cette idée de modèle républicain auquel on fait référence de façon un peu mécanique, comme je le disais en commençant, sans y réfléchir. Alors, commençons par le premier volet de ma réflexion concernant les valeurs, comme on le dit, ou les grandes idées qui ont fait ce que certains, en tout cas, considèrent comme être la doctrine républicaine. Alors, il y a, à vrai dire, plusieurs lectures possibles qui semblent devoir s'illuminer. Il existe d'abord, il faut le rappeler, une dimension qu'on pourrait dire autoritaire, hiérarchique, abusivement sans doute d'ailleurs caractérisée comme jacobine de la République, et qui s'est incarnée dans tout un courant, y compris d'ailleurs un courant tout à fait, considéré indubitablement comme républicain, mais aussi sur les marges de la République, je pense sous la Troisième République, à ce qu'on a appelé le boulangisme, c'est-à-dire cette tentative de réviser la Constitution de la Troisième République en ses débuts, et qui n'était pas anti-républicaine, mais qui proposait une autre version de la République où le pouvoir exécutif aurait été plus important. Cette conception-là se heurte à une autre conception de la République, justement celle qui s'est forgée au début de la Troisième République et qui met l'accent sur les libertés. Cette République-là, elle met l'accent sur les libertés en raison de son histoire, puisque, il faut le rappeler, la Troisième République, premièrement, naît d'une défaite militaire, ce qui est tout de même des circonstances de naissance assez compliquées à gérer, et deuxièmement, elle succède à une période longue de pouvoir autoritaire où la liberté a été écartée. Et donc c'est en référence d'abord à la liberté que cette République s'est construite. Alors, c'est dans cette tension, si vous voulez, de liberté d'une part et d'autorité de l'autre, que, au fond, s'est déroulée l'histoire de cette première République. À quoi se sont ajoutées d'autres valeurs qui ont beaucoup travaillé la République. D'abord, la République est mariée à la nation, à l'idée de nation. Alors là encore, il faut être très attentif, car, comme vous le savez, et là je vais faire un petit excursus, comme vous le savez, la République a aussi, ou a été présentée, aussi avec une face noire. La République est mariée à la nation, donc elle peut devenir nationaliste, et elle a été colonialiste. Là encore, on a donc une contradiction, puisque c'est une République qui revendique la liberté, qui s'appuie sur l'héritage de la Révolution française et des droits de l'homme, et qui pourtant colonise des peuples, soumet des peuples qui échappent à cette liberté. C'est d'ailleurs un procès qui a été fait par tout un courant historiographique critique de la République, qui a été de mettre le doigt sur ce volet-là de la République, en montrant, par exemple, chez un Jules Ferry, celui qui, après Charlemagne, a inventé l'école, comme vous le savez, à moins que ce soit le contraire, n'avait pas fait que du bien, et qu'il avait été en particulier un colonisateur, et que cette marque-là discréditait, en quelque sorte, l'ensemble de l'œuvre de Jules Ferry. Donc cette lecture, entre bien et mal, je ne commenterai pas, on aura peut-être l'occasion de revenir sur cette question, mais elle fait aussi partie de ces tensions que je notais. Alors, cela dit, il serait évidemment au moins anachronique et faux, pour tout dire, de considérer simplement que de cette œuvre coloniale, la République aurait été raciste au sens où nous l'entendons. Je remarque d'ailleurs que les thèses, les premières thèses racistes de la fin du XIXe siècle, je pense à celle de Gobineau, par exemple, n'ont pas trouvé de terrain de développement en France et se sont précisément heurtées à des valeurs républicaines. Mais il y a quand même un certain nombre d'exclus de la République. Et ces exclus de la République, comme je le disais à l'instant, ont été évidemment mises en évidence par tout un courant historiographique. Alors il y a les indigènes, ceux qui sont parmi les peuples colonisés, mais il faudrait y ajouter deux autres catégories d'exclus. Vous en voyez immédiatement une qui a été très importante, que sont les femmes, qui n'ont pas, comme les indigènes, accédé à la citoyenneté immédiatement. Alors, est-ce que c'est ça, les valeurs républicaines ? Et puis, une troisième catégorie, d'une certaine façon, d'exclure, encore que l'exclusion-là soit plus sociale que politique, je veux parler des prolétaires, puisque la première République a été, pour le moins, négligente en matière de politique sociale, encore qu'il faille, là aussi, nuancer. Et donc, ces questions-là, évidemment, conduisent à interroger un point très important qui est la réalité des relations de la République avec la liberté. Au point que certains auteurs ont pu, à un moment de leurs travaux d'ailleurs, et après avec plus de nuances, je pense aux travaux de Pierre Rosanvallon par exemple, mettre en évidence ce qu'ils appelaient l'illibéralisme de la liberté. C'est-à-dire une république, certes, qui affiche son attachement à la liberté, pour les raisons historiques auxquelles je faisais allusion en commençant, mais qui, dans le même temps, était extraordinairement prudente, pour ne pas dire frileuse, face à certains ordres de liberté. Alors certes, me direz-vous, il y a de nombreuses lois libérales sous la République. Il y a la loi de la liberté de la presse, 1881, il y a la loi sur les associations de la même année, il y a la loi sur les syndicats de 1884, enfin bon, je ne vais pas vous faire le récitatif du libéralisme républicain, mais il y a aussi des limites. Par exemple, j'observe que le droit de manifester n'a jamais été, d'ailleurs jusqu'à nos jours, un droit républicain. On pourrait prendre aussi des exemples plus précis en d'autres domaines. Et puis, il y a aussi la question de la laïcité qui a pu être perçue à un moment comme une atteinte à un certain ordre de liberté. Les catholiques, en particulier, ont vécu surtout à un moment précis de l'histoire de la République, en gros au début du XXe siècle, sous la période du vénérable petit père Combes, une application de la laïcité qui allait contre un certain nombre de libertés considérées comme essentielles, qui étaient la liberté de croire et la liberté d'enseigner, qui ont pu être là aussi considérées comme une trace de cette relation comme je le disais, frileuse avec les libertés. Voilà donc un premier nœud de problème qui mérite, sur lesquels il mérite de réfléchir. Et sur ce point-là, je voudrais conclure sur la réflexion suivante. Ce qui me frappe beaucoup, je reviens à ce que je disais en commençant, c'est la façon dont la République est revenue comme un objet historique et comme une référence politique dans la France des années 1980. Jusque dans les années 80, au fond, la République était une vieille dame. Tu parlais tout à l'heure, Déborah, du jeune Napoléon. Eh bien, moi, je parle d'une vieille dame, qui faisait peu rêver à la fois les hommes politiques, à la fois et les historiens. Et dans les années 80, du coup, s'est produit ce phénomène intéressant et qui serait d'ailleurs un objet en soi. Réfléchir pourquoi dans les années 80, où à la fois nous avons eu un retour politique, notamment autour de 83-84, et notamment dans le sillage en particulier de Jean-Pierre Chevènement, qui retrouve en quelque sorte de la saveur à la République, et qui d'ailleurs aussi a des effets dans l'autre partie du champ politique, car même à droite aussi, la République à ce moment-là reprend des couleurs. Sur ce retour-là, évidemment, il y aurait beaucoup de commentaires à faire, mais on a l'impression qu'il y a une recharge, si j'ose dire, idéologique de la vie politique dans les années 80, parce que précisément, ce qui avait animé la vie politique jusqu'en ces années-là ne fonctionnait plus. Et parallèlement, les historiens reviennent aussi à un objet qu'ils avaient un peu délaissé. Le livre, je le citais à bas bruit, de Claude Nicolet, « L'idée républicaine en France », qui a eu à la fois des effets dans le champ politique, mais qui a aussi été un livre très lu, très commenté, notamment par Jean-Pierre Chevènement, est de 1982. Et ce livre-là, qui d'ailleurs est un grand classique, et a plein d'intérêt, est aussi un livre, évidemment, qui prend la défense de la République et la remet et donne des raisons pour la remettre au cœur du débat politique. Si bien que je fais ce petit détour pour dire que ce qui me frappe beaucoup dans le travail des historiens, des politistes, des philosophes même, qui se sont emparés de ce sujet-là dans ces années 80, a été que, au fond, la République est devenue redevenu un sujet vivant, mais tellement vivant qu'il a polarisé entre ceux qui voyaient dans la République, au fond, un nouvel avenir, et ceux qui n'y pointaient que les insuffisances, voire les crimes, lorsqu'il s'agissait de stigmatiser l'œuvre coloniale des républicains. On est même allé plus loin, puisque dans les années 1990, un historien, Gérard Noiriel, fait un livre qui a un écho considérable et qui s'intitule « Les origines républicaines de Vichy ». Et dans ce livre, Gérard Noiriel insiste sur l'idée que, au fond, le patrimoine idéologique de Vichy est déjà présent dans la République, non seulement d'ailleurs dans la République des années 30, et dans l'immédiat qui précède la fin de la République, mais aussi beaucoup plus profondément dans les politiques, je parle devant Dominique Schnapper, qui connaît bien ça mieux que moi, mais dans les politiques migratoires, dans les politiques de nationalité, et même dans un certain imaginaire républicain, où Noiriel voit, au fond, rien d'autre que les origines d'un régime qui, pourtant, c'est la première fois que ça arrivait dans l'histoire, s'est inscrit contre la République, s'est défini comme anti-républicain. Donc vous voyez que à ce moment-là, la République à la fois revient sur la scène, en des termes positifs, mais passe un mauvais quart d'heure, si j'ose dire, dans la mesure où on va aussi y chercher, au fond, les origines d'un mal français. C'est peut-être un débat que je laisse en suspens là, sur lequel on pourra revenir, mais il est intéressant de le pointer. Un dernier mot peut-être, et j'en finirai sur ce premier volet. J'y ai fait allusion sur la question, toujours dans, sur un registre accusatoire, si vous voulez, de la laïcité. Il est clair que la laïcité a pu, sous la Troisième République, puis ultérieurement, et dans les années 1980, être présentée, au fond, comme un système d'oppression, qui se retournait contre des catégories religieuses. D'abord les catholiques, puis dans les années 80 les musulmans, puisque vous en souvenez, en 1989 a lieu là la fameuse affaire du foulard. C'est, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de littérature autour de cette affaire du foulard, mais c'est intéressant de voir d'ailleurs comment le camp républicain lui-même s'est divisé à cette occasion, puisque, pour prendre quelqu'un qui nous est cher, ici je crois, Déborah Monaouzouf, et d'ailleurs elle n'était pas seule, puisque moi je me trouvais assez sur cette ligne-là, était hostile à l'idée que l'on puisse légiférer pour limiter le port du voile, d'autres tout aussi républicains, ayant plutôt une lecture, d'ailleurs, qui faisait référence à la lutte des républicains contre les catholiques, et estimait donc qu'il fallait lutter par des systèmes, par un système législatif contre ce type d'action. Alors, là encore, la République est ambivalente dans son histoire. Je ne voudrais prendre qu'un texte pour l'illustrer, et c'est un texte extraordinairement connu, mais qui dit bien que la laïcité et la morale laïque, telle qu'elle était pensée par les républicains, n'était pas conçue comme un corpus, ou pas toujours en tout cas, peut-être par certains républicains, sans doute, mais pas par tous, comme un corpus de textes de propagande qui devait tomber sur la tête des citoyens et des enfants pour, en quelque sorte, leur insuffler une identité définitive. Alors, ce texte, c'est la fameuse lettre aux instituteurs de Jules Ferry de novembre 1883, hein, qui rappelle aux instituteurs qu'ils ne doivent pas énoncer, comme il dit, un précepte, ni, ajoute-t-il, une maxime quelconque susceptible de heurter le moindre père de famille. Bon, les choses sont assez claires, donc on est loin de la version qui a été, il faut bien le dire, ici et là, et parfois au plus haut niveau de l'État, certaines versions de la laïcité qui a été mise en œuvre par Émile Combes et par la République de cette période, allant, comme vous le savez, jusqu'à ficher les généraux français pour connaître leurs opinions religieuses. C'est tout cela, et je pense que le travail des historiens, tel que vous voyez, je vous l'esquisse là en quelques mots, c'est précisément, non pas de dire qu'il y a un modèle républicain qui répondrait à une équation et une seule, mais qu'il y a des dynamiques à l'œuvre, qu'il y a des conflits, qu'il y a des controverses, et que de ce point de vue-là, du point de vue des idées, des valeurs auxquelles je me tiens uniquement pour le moment, on pourrait davantage parler de projet républicain, de dynamique républicaine, que de modèle établi une fois pour toutes et auquel il suffirait de faire référence. Voilà donc une première série de réflexions. La deuxième série sera plus brève, avant que j'en passe à mon exemple précis, excuse-moi. Elle vise à essayer de voir comment, au fond, tout cela, ces idées, ces valeurs, ont pu ou non être, pas un modèle diffusionniste qui tomberait sur les gens, mais pour le dire autrement, comment la République a tenté d'instituer des relations entre l'État et les citoyens. Alors, je voudrais soulever là un autre problème, un autre point de tension. Vous voyez, ça, c'est la démarche typique des historiens, c'est-à-dire que les historiens vont plutôt chercher là où ça fait problème. C'est beaucoup plus intéressant, d'ailleurs, parce que c'est plutôt là où ça fait problème que, à mon avis, on répond davantage aux situations, y compris les plus contemporaines. Alors, l'autre point qui fait problème, c'est la question, en République, de la représentation. Donc, de la relation, là, on est en plein cœur du débat, de la représentation, c'est-à-dire de la relation donc, entre, pour le dire vite, le peuple et ses représentants. Je voudrais m'arrêter sur ce point qui me semble tout à fait majeur l'examen de ce processus républicain. Il faut d'abord comprendre le mot de représentation dans deux sens. Alors, il y a un premier sens, vous connaissez, qui renvoie à la notion de délégation. Qui est que le représentant est celui qui représente l'absent, celui qui n'est pas là. Et puis il y a un second sens, classiquement mis en évidence, qui renvoie eh bien, au spectacle, à la mise en scène, représentation. Or ces deux sens, j'y insiste, touchent ces deux aspects de la représentation, touchent au point, je crois, le plus sensible auquel se sont heurtés les républicains qui ont, en fondant la République, puis en l'entretenant jusqu'à nos jours, toujours prétendu rompre avec, évidemment, les formes dynastiques, les formes autoritaires, et ont du coup entretenu avec ce qu'on pourrait appeler l'incarnation, la personne, des liens, disons, là aussi, compliqués. Au fond, le rêve des républicains, et je l'illustrerai par des exemples dans un instant très concret, le rêve des républicains aurait été celui un peu du vieux Saint-Simon du début du 19e siècle, qui aurait été la seule administration des choses. Que, au fond, tout cela marche tout seul, et qu'on puisse surtout se passer des individus incarnés. On pourrait faire d'ailleurs, si j'étais philosophe, ce que je ne suis nullement, autour de ce mot d'incarnation, des liens assez intéressants, qu'a déjà pu faire quelqu'un comme Marcel Gauchet, de ce point de vue-là, entre la religion et la politique, ça intéresse particulièrement les républicains. Alors, pour tenter de contourner ces difficultés, les républicains ont développé plusieurs stratégies. En principe, dans leur idéal, au fond, le représentant ne doit pas nécessairement, et même plutôt pas du tout, ressembler au représenté. Je m'explique. C'est la raison pour laquelle, c'est une explication qui n'est pas la seule à retenir, mais qui me semble la plus forte du point de vue d'une philosophie politique, les républicains ont toujours, se sont longtemps, jusqu'en 1944, comme vous le savez, opposés au vote des femmes. Ils se sont opposés au vote des femmes parce qu'ils ne connaissent pas les femmes en tant que femmes. La revendication du vote au nom de la féminité, au nom donc d'un groupe particulier, est inaudible. Le républicain ne connaît que des citoyens abstraits, gris, sans vie, interchangeables. Donc là, si vous voulez, y a un point intéressant. Et alors, on le voit aussi, je prenais l'exemple des femmes, il y a d'autres raisons, je pense qu'il y a ce profond substrat philosophique. Mais on le voit aussi, on a d'autres domaines que je soulevais tout à l'heure, qui concernent précisément le social. à proprement parler, est l'idée de représentation ouvrière. Les républicains, évidemment, sont absolument insensibles à cette notion-là. Puisque les ouvriers n'existent pas en tant que tels, ils n'ont pas d'existence politique en tant que tels, les ouvriers sont des citoyens, comme les autres, qui n'ont pas à être connus comme des ouvriers. Et donc, de ce point de vue-là, je crois aussi qu'on peut comprendre, mieux comprendre le retard de la politique sociale républicaine qui n'a pas été aussi sensible, par exemple, qu'en Angleterre, à des revendications de groupes, et en particulier des revendications ouvrières. Cela dit, il faut là nuancer un peu le propos. En réalité, on s'aperçoit que cette république, donc plutôt verticale, vous l'aurez compris, plutôt ignorante des propriétés individuelles, biologiques et sociales des individus qui composent le corps citoyen, elle a quand même, dans la réalité, passé des compromis. Et on peut dire, avec un peu d'excès, mais on peut dire que cette république, cet État jacobin, centralisé, etc., a su aussi, d'une certaine façon, évoluer et progressivement esquisser ce qui pourrait se rapprocher d'un État plus démocratique, en tout cas d'un État qu'on pourrait qualifier de consultatif. Comment ? Eh bien, parce que, peu à peu, petit à petit, en fonction des groupes, en fonction des problèmes, en fonction des secteurs d'activité, la République s'est donnée de conseils. Conseils, si je reprends l'exemple sur lequel j'étais concernant le monde ouvrier, qui était le Conseil supérieur du travail, qui traitait spécifiquement des questions du travail. Il y en a eu 78 avant la guerre de 14 qui ont été créés de ces conseils. Donc ça va du Conseil supérieur du travail jusqu'au, par exemple, Conseil supérieur des beaux-arts. Hein. Chaque secteur, donc, ayant, de ce point de vue, un conseil. Voilà un premier point. Toujours sur la représentation. Il y a eu, chez les Républicains, depuis le départ, un discours aussi extraordinairement fort contre toute espèce de professionnalisation de la politique. Et ça, c'est un point important, puisque l'homme politique, le représentant, est là, en quelque sorte, autant que il bénéficie de la confiance de ses élus. Dans la réalité, nous le savons, il faut y regarder de près. D'ailleurs, c'est l'essence des recherches de Frédéric Monnier, qui a collaboré à ce livre, de démontrer que, en réalité, les élus républicains sont très vite moins des représentants que des prestataires de services. C'est-à-dire l'élu, et là vous comprenez pourquoi j'insiste là-dessus, parce que évidemment on se pose sur la question de la républicanisation et de la conscience républicaine des citoyens dans le député, dans le conseiller général, dans le maire. Les citoyens voient tout autant quelqu'un qui peut répondre à leur situation. Ça n'existe plus aujourd'hui, bien sûr, vous savez ça. Des situations personnelles où ils ont des difficultés, beaucoup plus que quelqu'un qui le représente, et notamment dans leurs idées. Si bien, d'ailleurs, on le voit, c'est assez intéressant de voir que le passage, des anciens régimes à la République, c'est assez bien fait. Je vais vous donner un exemple. On a un cas qui a été bien étudié et qui est maintenant cher à mon cœur, parce que c'est un Normand, le baron Armand de Macao. le baron Armand de Macao, je pense que peu ici connaissent le baron Armand de Macao. Il a été pourtant... Oui, mais non, pas comme ça. pas la chanson. A été à la fois conseiller général et député de l'Orne sous le Second Empire. Vous le rappelez, il y avait des élections sous le Second Empire. Le Second Empire, non seulement a conservé le suffrage universel, mais il l'a même redéveloppé par rapport à ce qu'avaient fait les républicains, qu'il avait réduit. Ce baron était donc un élu qui pratiquait l'élection sur un mode clientéliste comme on le faisait sous le Second Empire, donc dans une relation de proximité comme un patron avec ses clients. On aurait pu penser que la République, avec ses grands idéaux, avec son projet politique, avec son effort de politisation et de fabriquer des citoyens, aurait cassé ce type de relation. En tout cas, c'est tout son discours. Bien, en réalité, le baron de Macao a très bien vécu sous la République aussi. Il n'a pas changé un iota à ses pratiques clientélistes sous la République. On peut supposer que ce cas-là, on ne suppose pas, on peut le documenter aussi très bien, n'est pas unique. Enfin, troisième volet qui me permettra, troisième exemple qui me permettra d'ailleurs de glisser sur le dernier exemple autour du président de la République que je voudrais traiter, c'est tous les dispositifs symboliques qui ont été mis en œuvre par les républicains jusqu'à nos jours, visant précisément à républicaniser le territoire. Quels sont-ils ? Vous les connaissez, puisqu'ils sont toujours les nôtres. Et il reste à interroger, mais là je n'entrerai pas pour l'instant dans la discussion, de leur efficacité. Efficacité symbolique, ça c'est un grand sujet pour les anthropologues et les historiens. Bon. Pour l'instant, on va supposer que c'est efficace. Je n'en suis pas sûr, mais on va supposer. Alors, quels sont-ils ? Eh bien, d'abord, il faut noter que par rapport au régime précédent, ils sont plutôt minimalistes. Un hymne, la Marseillaise, une fête nationale, le 14 juillet, et une figure, Mariam, fort bien étudié sous tous ses formats, sous ses significations, par le regretté Maurice Agulon. Ces dispositifs, c'est ce que montrait un peu Maurice Agulon d'ailleurs, à propos des Mariannes, on n'est pas sûr qu'ils aient fonctionné. Alors, non parce qu'on a la capacité de sonder les reins et les cœurs, ça, malheureusement, on ne saura jamais, mais de voir comment, tout simplement, ils sont diffusés du haut vers le bas. Hein? Par exemple, de voir est-ce que les mairies commandaient des bus ou pas. Je constate que l'État n'a jamais imposé les Mariannes, ou, j'en dirai un mot dans un instant, même les portraits des présidents de la République. Mais il y a d'autres dispositifs, notamment... commémorations. Je pense par exemple à la commémoration du centenaire de la Révolution française en 1889. J'observe d'ailleurs que 100 ans plus tard, le bicentenaire a eu sans doute des effets très différents parce que le message était aussi très différent et que ce qui passait dans le premier centenaire ne passait plus dans le second. On pourrait aussi, au passage, ce qui a été très important sous la Troisième République et qui est un dispositif en voie d'épuisement, qui sont les funérailles nationales et les panthéonisations, qui permettent aux républicains de délivrer un discours dont on suppose encore une fois l'efficacité. Mais pour vous donner un ordre de grandeur sur une séquence qui a été particulièrement étudiée, sous la Troisième République prise en son entier, c'est-à-dire de ses débuts en gros 1875 jusqu'en 1940, il y a eu quand même 82 événements funéraires, j'entends par là, soit des funérailles nationales ou aux frais de l'État, il y a des nuances, bon, je ne rentre pas dans les détails, soit des funérailles, soit des panthéonisations, y compris d'ailleurs des panthéonisations retardées, genre Jaurès ou Gambetta, hein, qui n'ont pas été panthéonisées immédiatement. Donc, il y a eu toutes ces sortes d'efforts donc, pour aller imposer cette république dont il reste évidemment à mesurer l'efficacité. J'ai conscience de vous laisser un peu sur votre faim, parce qu'évidemment, si je vous dis je ne sais pas si c'est efficace, c'est un peu décevant. Mais on aura peut-être l'occasion d'en discuter. Mais je suis de ceux qui, disons, restent circonspects face à l'efficacité, en profondeur en tout cas, de cette républicanisation du territoire, parce que justement, je suppose que c'est une dynamique qui doit toujours être réamorcée. C'est-à-dire que le travail de républicanisation n'est jamais arrêté une fois pour toutes. Or, on a eu tendance à penser, et justement, en raison de cette conception du modèle républicain que je critiquais en commençant, qu'au fond, il y avait un dispositif installé une fois pour toutes, et que la République était une machine qui fonctionnait en quelque sorte toute seule. Ce n'est pas tout à fait mon point de vue. Et j'en viens, combien il me reste? Tu me donnes 10 minutes?
Oui. Hein,
je ne serai pas plus long. J'en viens à un dernier point qui est très concret, mais dans lequel vous allez voir, on va retrouver un certain nombre de points que j'ai soulevés, qui concernent donc la présidence de la fonction, pardon, l'histoire de la fonction présidentielle. Alors, d'abord, c'est une chose qui est souvent rappelée dans les histoires de la République, mais que je vous rappelle, évidemment, l'idée d'un président de la République, après la chute de l'Empire, en 1870, posait un certain nombre de problèmes. Elle posait un certain nombre de problèmes parce que, dès les années 1870, les républicains, évidemment, se définissent comme contre toute espèce de personnification du pouvoir qui est immédiatement renvoyée soit à la monarchie, soit à toute forme de césarisme. Et ils ont une espèce de puritanisme, ils cultivent, si j'ose dire, une espèce de puritanisme anti-personnel, je ne sais comment le mot ne va pas, mais vous allez voir ce que je veux dire. Gambetta, grande figure de la République, et pourtant que ses ennemis considéraient comme un homme politique attiré excessivement par le pouvoir et dont on soupçonnait peut-être le goût pour la tyrannie et la volonté d'instituer un retour à un pouvoir autoritaire. Donc c'était un homme qui n'était pas connu pour sa faiblesse de caractère ni pour une conception minimaliste des institutions. Eh bien, lorsqu'il se trouve dans des meetings, dans des conférences, et qu'il est acclamé par les foules, il s'adresse aux foules et leur dit « Messieurs !» Parce qu'évidemment, il y a à l'époque uniquement des messieurs dans les meetings, ou principalement des messieurs. Je le dis...
Pardon. Hein? Tout commence à s'adresser qu'à eux.
Oui. Je pense que c'est... Il faut des études de genre pour nous montrer ça. Non, excuse-moi, je fais du mauvais esprit. Messieurs, nous ne sommes pas ici pour nous applaudir, mais pour échanger nos idées et nos sentiments. Je vous remercie de vos témoignages de sympathie, mais je vous demande seulement de la régler, la sympathie, car il faut savoir régler ses sentiments comme sa raison. Ça, c'est vraiment le propos républicain type. C'est la chimiquement pure, si vous voulez. Parce que je le mets dans la bouche de Gambetta, mais c'est dans la bouche de tous les républicains de l'époque. Je pourrais vous en faire... Il a d'ailleurs une formule. Il réclame ce qu'il appelle une trêve des louanges. On pourrait l'envoyer à ça. Nous avons autre chose à faire et à dire dans nos réunions qu'à échanger entre nous des congratulations à l'adresse de celui que le hasard, le travail aussi peut-être, a mis en évidence, etc. Permettez-moi de vous rappeler ce que je vous ai toujours dit, qu'il fallait se garder du prestige des personnalités et qu'il n'y a rien de plus dangereux que de faire d'un homme une idole. Pas mal, ça. Bon, alors, donc, évidemment, dans ce contexte-là, on voit qu'il est un petit peu difficile de réinstituer quelqu'un censé incarner à lui seul la République. Donc ça a été difficile, donc je ne vais pas vous rappeler laborieusement les différentes lois. Toujours est-il que on y est quand même petit à petit arrivé, et dans un contexte politique particulier, qui était que, il faut le rappeler, au début de la Troisième République, ceux qui ont le pouvoir sont des monarchistes. Ça a donc un tout petit peu facilité les choses, et donc une présidence de la République a été instituée. Alors, on a d'abord dit, les historiens ont été un peu rapides là-dessus, en disant oui, d'accord, il y a un président de la République, sous la Troisième République, mais en fait, ça n'a rien à voir avec ce que nous connaissons depuis 1958. Le président, à l'époque, n'a pas beaucoup de pouvoir. Comme le disait le général de Gaulle, hein, c'était un peu comme la reine d'Angleterre. Il inaugure les chrysanthèmes. En réalité, lorsqu'on y regarde de plus près, on s'aperçoit que, au fond, on peut, là de nouveau, si j'ose dire, prendre les républicains la main dans le sac et voir que, au fond, avec la présidence de la République, ils ont tout de même réinstitué des rituels qui n'étaient pas sans relation avec un certain cérémonial monarchique. Alors, je ne suis pas en train de dire « chasser le naturel, il revient au galop » et de dire « décidément, ces Français, on savent, on le sent », mais je constate que très rapidement, et souvent pour des raisons de circonstances, de conjonctures politiques, la République a passé des compromis avec une présidentialisation qui redonnait à la fonction présidentielle ce qu'elle n'avait pas au début, voire la période Gambetta, c'est-à-dire un certain éclat. Alors, juste parce qu'il y a quand même une chose assez amusante, les premiers présidents de la République et les premiers présidents républicains de la République, enfin dire le premier qui s'appelait Jules Grévy, a tout à fait incarné la grisaille républicaine qui était dans l'idéal que je décrivais, c'est-à-dire surtout ne nous montrons pas, soyons le plus invisible possible, soyons le plus green et interchangeable possible. Vous savez, quand on voit ces images d'actualité télévisée sous la 4ème République, quand les gouvernements changent et on les voit en série, on voit des messieurs qui montent, c'est toujours des messieurs qui montent, des messieurs qui descendent, des messieurs qui montent, des messieurs qui descendent, à chaque changement de gouvernement, on a l'impression que c'est les mêmes et qu'ils vont dans un sens. Donc, bon, voilà, c'est ce côté interchangeable, on l'a donc avec Grévy, hein, comme on le disait, un journaliste faisant le bilan de son mandat, disant, Monsieur Jules Grévy fut casanier et ses qualités de bonhomie souriante, ignorées de la foule, brillèrent seulement à huis clos autour de son billard. Voilà. Donc on voit bien, si vous voulez, une fonction renvoyée au privé, à la sphère privée, et puis surtout invisible, au point qu'on a d'ailleurs parlé de constitution grévie pour désigner ce type de gestion. Mais les choses ont changé. Elles ont changé, je le dis, non. Alors, c'est là où on relativise encore l'idée de modèle républicain, hein, sous le coup de l'histoire. Et notamment en raison de ce qui se passe dans les années... à la fin des années 80 et au début des années 90, avec l'épisode boulangiste et cette nouvelle conception de la République qui est opposée par le général Boulanger, appuyée par des monarchistes, il est vrai, qui était de redonner du poids à l'exécutif et de repersonnaliser la vie politique. Bon, le général Boulanger sur son beau cheval, avec tout un dispositif à l'américaine. Il faut se souvenir d'ailleurs que le général Boulanger était allé à Yorktown pour le centenaire de la bataille et avait vu aux États-Unis des façons de faire de la politique qu'il avait tout à fait séduites et qu'il apporte en France. Alors, avec en faisant faire des assiettes avec sa tête dessus, toutes sortes de choses évidemment, qui étaient à l'encontre de l'éthique républicaine que je vous ai. Et puis surtout, le général Boulanger bouge. Il ne reste pas autour de son billard. Ce qui était dit de Grévy signifiait quoi? Que le président de la République restait enfermé à l'Élysée et ne sortait pas, ou presque pas. À partir de Boulanger, dans la concurrence de Boulanger, les présidents de la République ont commencé à sortir. Et à ce moment-là, on voit bien qu'il y a une publicisation, si j'ose dire, de la personne du président de la République, et qui va utiliser sa personne, son corps, d'abord, mais en spectacle. Hein. Alors là, on retrouve le deuxième sens de représentation, il se met en représentation, mais aussi avec des services de, alors j'emploie ce mot de façon un peu anachronique, mais c'était ça, de communication, qui commence à diffuser des messages sur la vie privée du président de la République. Il y a par exemple, moi, un de mes présidents préférés, pas pour les raisons que vous connaissez, Félix Faure, a été extraordinairement novateur là-dessus. Novateur dans le sens où, pendant sa présidence, il allait passer des vacances et il était accompagné toujours de journalistes qui publiaient à la fin des vacances l'album des vacances du président. Donc ça, vous voyez, on n'est plus du tout dans la grisaille républicaine, hein, et on voit bien ce changement. Alors, je pourrais développer beaucoup cela, le rituel des chasses, par exemple, hein, des chasses présidentielles, les photographies, la diffusion des informations sur la jeunesse, bref, réincarner la fonction, et aussi la mettre en image, non plus seulement avec des tableaux peints par cet horrible peintre qui s'appelait Bonnard, hein, vous avez déjà vu du Bonnard, mais aussi par des photographies officielles qui sont instituées, alors au début, de façon, d'ailleurs qui ne sont pas instituées, qui sont pratiquées, de façon un peu bricolée, et puis qui deviennent très codifiés, hein, et qui donc, une idée un peu saugrenue, si on pense à tout ce que je vous ai dit, d'accrocher la tête du président de la République, jusqu'à nos jours, en concurrence avec Marianne, dans les lieux publics. Sur la longue durée, il y aurait des choses à dire, d'ailleurs, sur cette évolution. D'ailleurs, ces choses ont été dites par des chercheurs qui ont travaillé là-dessus, sur le tournant qui a marqué d'ailleurs les années 70 avec la photographie de Giscard d'Estaing, parce qu'il est vrai que jusqu'à Georges Pompidou, à vrai dire, les conventions des photographies sont à peu près tout le temps respectées. On a eu le passage à la couleur, mais à peu près tout le temps respectées, et là aussi il y a une interchangeabilité. Bon, voilà ce sur quoi je voulais je voulais mettre l'accent pour finir, on pourrait presque que dire que de la constitution Grévy et du président de la République Gris, on est passé à un prince républicain, mais ça va très loin. Hein. Je finis par une chose qui n'a pas beaucoup choqué, d'ailleurs, à l'époque, lorsque le président Félix Faure, qui est le premier président de la République à sortir du territoire, c'est le premier à faire un voyage à l'étranger en Russie, en 1897. Bon. C'est toute une affaire. Et il exige que sur le bateau qui l'emmène en Russie, il y ait d'abord son monogramme sur le blanc du drapeau tricolore, FF, qui est donc en or sur le blanc du drapeau tricolore. Vous voyez la symbolique. Imaginez aujourd'hui ce genre de choses. Et il fait acheter de la vaisselle avec le même monogramme. Donc on est quand même, là encore une fois, très très loin du billard de Grévy. Hein. Donc, toutes sortes d'éléments donc, qui méritent de mettre en avant. Je conclue donc très rapidement. J'étais donc parti en vous disant ma perplexité sur la façon dont on utilisait un peu rapidement, à tort et à travers, rien dire, les expressions de modèle républicain, de valeurs républicaines et toutes sortes de choses, à la fois d'ailleurs dans le champ politique et chez les historiens du politique. Vous avez bien compris que mon propos, évidemment, est autre que celui qui a été souvent mis en avant aussi depuis les années 80 entre ceux qui se disent républicains et ceux qui se disent démocrates, hein, opposant au fond, derrière ça, deux conceptions de la République. C'est le fameux article de Régis Debray opposant ce modèle vertical, qui serait le modèle des républicains, pyramidal, hein, à un modèle horizontal, qui serait le modèle démocratique. Il ne s'agit pas de refaire cela. C'est un débat qui a sa légitimité, d'ailleurs, qu'on peut trouver intéressant. Mais il s'agit de voir qu'au fond, la République, telle qu'elle s'est développée historiquement, est riche de beaucoup de potentialités qui sont exploitées ou utilisées en fonction de moments historiques, à l'intérieur même, donc, de cette histoire républicaine. Donc voilà, en fait, derrière mon petit propos, il y a discrètement distribué une petite proposition historiographique, une petite leçon de méthode que j'ai tenté de vous distiller et qui, à mon avis, permet de faire que cette histoire-là est d'un intérêt absolument passionnant et qu'il faut continuer à la faire. Voilà ce que je voulais vous dire.